France Culture.
Moi je trouve que c'est fou, dès que tu te plonges dans un livre, tu plonges dans un environnement et un autre monde qui fait que tu te coupes des autres et c'est génial. Tu te sens moins seul, tu te sens peut-être même bizarrement écouté alors que c'est toi qui lis. Et c'est ça que j'aime.
Quand vous lisez, est-ce que vous vous identifiez aux personnages? Est-ce que vous vivez avec eux?
Ah oui, il me faut le vivre ou l'abandonner.
C'est un moyen de s'échapper de sa propre réalité, de tomber dans la réalité de quelqu'un d'autre. Ça permet de t'évader de ta réalité à toi.
La lectrice.
Celle qui lise, une série documentaire d'Hélène Goutani, réalisée par Anne Pérez. Épisode 3, les lectrices sur le banc des accusés. Celles qui lisent deviennent des personnages de réalité et de fiction. Un personnage jamais innocent, la lectrice rentre dans l'ère du soupçon. Car la femme ne sait pas lire. Naïve et enfantine, peut-elle seulement prendre le recul nécessaire vis-à-vis des héroïnes de papier? Est-elle capable de garder la tête froide face aux émois du roman? De régressive, la lecture au féminin devient pathologique. Elle mène au vice, sinon à l'irréparable. Et lorsque la lectrice devient vicieuse, torve ou criminelle, c'est à ces messieurs les médecins et les juges de trancher.
Marie Fortunée Capelle, épouse Lafarge, née à Paris le 15 janvier 1816 de Antoine Laurent, baron Capelle, et de Fortunée Alexis Collard. Mariée à Paris le 12 août 1839 à Charles Dorothée Pouche Lafarge, âgé de 28 ans. Condamnée aux travaux forcés à perpétuité le 19 septembre 1840 par le jury de la Corrèze pour empoisonnement par l'arsenic de son mari. Internée à la maison centrale de Montpellier le 9 novembre 1841. Décédée le 7 novembre 1852 à Ussat-les-Bains, Ariège.
Marie Lafarge s'ennuie dans son mariage et Charles, son mari, donc, est pris de violentes douleurs abdominales, succombe extrêmement rapidement.
Isabelle Matamoros, historienne.
Elle est inculpée d'empoisonnement. Et son procès va faire grand bruit, va impliquer de nombreuses personnalités intellectuelles qui va prendre la défense de Marie Lafarge, d'autres va la condamner.
À 8 heures, les portes sont ouvertes. Des flots de curieux, malgré les protections prises par la force publique, se précipitent dans l'enceinte. Il est difficile de se faire une idée de l'encombrement de la salle d'assises. Les efforts des huissiers et de la gendarmerie sont vains pour faire respecter les places destinées à la famille de l'accusé.
Je ne vous dirai pas ce que j'ai souffert, le désespoir de ma pensée, le doute de mon âme. Je n'avais pas d'espoir pour la douleur à venir, pas de prière pour la douleur présente. Les hommes m'accablaient et j'étais oubliée de Dieu.
Rapport des médecins experts chimistes. Il a été conclu que la mort du nommé Charles-Joseph Pouche Lafarge et le résultat de l'empoisonnement occasionné par l'absorption de l'acide arsénieux.
Et ce qui est très intéressant, c'est que durant ce procès criminel, vont être passées au crible de l'examen ces lectures. L'accusation va mettre en avant le fait que Marie Lafarge était au moment du décès de son mari en train de lire Les Mémoires du Diable de Frédéric Soulier. Donc un roman dans lequel le protagoniste fait un pacte avec le diable. Et donc en fait, il va y avoir tout un imaginaire finalement de la lectrice qui s'est laissée emporter par la fiction qu'elle était en train de lire, qui a été pervertie finalement par le roman, qui va se développer et qui va peser lourd dans l'accusation de Marie Lafarge.
Madame Lafarge est une des grandes affaires judiciaires du 19e siècle.
Judith Lioncan, historienne, directrice d'études à l'EHESS.
Qui a été énormément étudiée et en fait, donc, bon, c'est une femme dont on n'a jamais su si elle avait en réalité... Il y a eu une bataille d'experts sur l'empoisonnement à l'arsenic de Madame Lafarge. L'affaire a aussi, dit-on, inspiré la Madame Bovary de Flaubert. C'est une histoire qui a énormément fait couler d'encre. Madame Lafarge, une fois qu'elle a été en prison, a écrit des mémoires qui ont été très lues. Et on a dit, à un moment donné, qu'elle aurait été intoxiquée, d'une certaine manière, elle-même, par un roman de Frédéric Soulier, Les Mémoires du Diable, qui sont un des grands succès du roman de la fin des années 1830, et qui est un roman assez violent, d'ailleurs, pas toujours très moral, en effet. Voilà. Il y a des moments de criminalisation à l'extrême de la lecture, soit auprès de femmes qui tuent leur mari, mais aussi il y a toute une série de tentatives de double suicide qui sont imputées au fait que la littérature donne à des jeunes couples qui ne peuvent pas se marier le désir d'en finir à deux, plutôt que de rentrer dans le rang et d'épouser qui on leur conseille d'épouser. Donc il y a des moments à l'extrême de criminalisation de la lecture qui peuvent être soit des criminalisations de la lecture féminine, ça c'est le cas de l'affaire Lafarge, soit des criminalisations de la lecture juvénile. C'est le cas de ces jeunes couples qui, enfin jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui décident de se donner la mort parce qu'ils ont lu Les Amants de Montmorency d'Alfred de Vigny et parce que voilà, cette espèce d'exaltation de la passion viendrait de la littérature.
Madame Lafarge l'avoue elle-même dans son interrogatoire, elle n'avait pas de pistolet, pas de poison, seulement elle était malheureuse de quitter ses habitudes, sa famille, de trouver une habitation en ruine au lieu d'un château dont on lui avait fait le plus séduisant tableau. Mon imagination exaltée par le désespoir d'être dans un lieu si sauvage, dit-elle, me dicta cette fameuse lettre. Ainsi ce pistolet, ce poison, ces menaces, ces confidences sinistres, tout cela n'était que de la couleur locale, comme on dit aujourd'hui. Quand on demande à Madame Lafarge comment elle a pu se montrer si tranquille à table après avoir écrit cette lettre si pleine de désespoir, elle répond qu'en exprimant ses sentiments, elle s'était soulagée. Absolument comme un auteur dirait qu'il est tranquille depuis qu'il a jeté sur le papier le roman bien noir qui couvait dans son imagination. Vous le voyez, le roman, toujours le roman. Alfred Nettement, La Gazette de France.
En parallèle de son procès, il va y avoir toute une campagne menée par un quotidien, on dirait de droite, légitimiste, qui s'appelle La Gazette de France, pour profiter, si on peut dire, de l'affaire Lafarge, pour mettre en cause les méfaits du roman. Et celui qui est à la manœuvre, c'est un critique qui s'appelle Alfred Nettement, comme l'adverbe, et qui est un des grands pourfendeurs du roman, qui est le pourfendeur de Gensu, qui est un pourfendeur de Balzac, qui est un pourfendeur de George Sand, donc ça fait partie de ces entrepreneurs de morale, dont vraiment l'activité de journaliste consiste à dénoncer les uns après. Donc il est à la recherche de preuves que le roman, dans son développement actuel, enfin à la fin des années 40, avec le roman feuilleton, avec ses grands romans qui suscitent une passion populaire, est un instrument de désordre social et politique. Voilà. Donc ça, c'est l'affaire Lafarge, c'est un des moments comme ça de grande hystérie, si on peut dire, autour du roman.
En étudiant les actions de Madame Lafarge, après avoir étudié ses pensées, vous arrivez à découvrir que le roman moderne ne tient pas une moins grande place dans sa vie que dans son style. Chez elle, tout est roman et drame. Et Madame Lafarge est un drame moderne incarné. Un roman en action. Son mariage est un roman. Elle compose deux ou trois romans avec et contre son mari. Quand elle veut l'empoisonner, elle enveloppe l'arsenic dans un roman rêveur et sentimental. Alfred Nettement.
À 10h30, la cour rentre en séance et Monsieur le Président prononce l'arrêt qui condamne Marie Capel, veuve Lafarge, aux travaux forcés à perpétuité et à l'exposition.
Elle va être accusée, condamnée, graciée ensuite lorsque Napoléon III arrive au pouvoir, mais elle décède très très rapidement après sa grâce. Et donc, on a vraiment un procès extrêmement représentatif et en même temps qui pousse à l'extrême. Les accusations portées à l'encontre de la lecture féminine, mais on trouve quelques autres affaires criminelles où, là encore, les lectures vont être accusées d'avoir finalement mené sur la voie du crime l'accusé.
En s'apercevant dans la glace, elle s'étonna de son visage. Jamais elle n'avait eu les yeux si grands, si noirs, ni d'une telle profondeur. Quelque chose de subtil, épandu sur sa personne, la transfigurait. Elle se répétait « J'ai un amant, un amant. » Se délectant à cette idée comme à celle d'une autre puberté qui lui serait survenue. Elle allait donc posséder enfin ces joies de l'amour, cette fièvre du bonheur dont elle avait désespéré.
Elle entrait dans quelque chose de merveilleux, où tout serait passion, extase, délire. Une immensité bleuâtre l'entourait. Les sommets du sentiment étincelaient sous sa pensée. Et l'existence ordinaire n'apparaissait qu'au loin, tout en bas, dans l'ombre, entre les intervalles de ses hauteurs. Gustave Flaubert, Madame Bovary.
Dans le roman français du tout début du 19e siècle, on va avoir un certain nombre de lectrices sentimentales qui vont être vraiment perdues par leur lecture. Elles lisent trop jeunes, de manière non contrôlée souvent, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de précepteurs, elles n'ont personne pour contrôler leur lecture. Donc c'est d'abord ça la mauvaise lectrice, c'est une lectrice sans aucun cadre qui la prévient de ce qu'elle est en train de lire, sans aucun retour sur ce qu'elle est en train de lire.
Marie Baudry, enseignante chercheuse.
Non seulement elles auraient pas dû lire ces romans et c'est des lectures sans contrôle, mais en plus elles appartiennent pas à la bonne classe sociale. Donc il y a une deuxième, effectivement, condamnation de la lecture des femmes, c'est que ce sont des jeunes filles des classes populaires, et là on en a pas mal, on en a chez Lamartine avec Gradiella, qui est une jeune fille, elle, qui peut vraiment absolument pas être prévenue des dangers de la lecture, puisqu'elle est analphabète et qu'elle apprend à lire dans un livre qui va trop la bouleverser, c'est Paul et Virginie. Mais on a le même type de personnage chez Balzac aussi. Notamment dans Le curé de village, il y a une héroïne qui lit aussi trop jeune, Paul et Virginie. C'est un roman de Bernardin de Saint-Pierre qui en 1788 sort et qui va être un succès continu tout le long de la première moitié du 19e. Donc ce roman décrit une espèce d'amour idéal, sentimental, pastoral, tel qu'on pourrait rêver d'en vivre. Et toutes les héroïnes lectrices de romans dans les romans français du 19e l'ont lu. C'est un des premiers romans qu'elles lisent toutes seules. Il y a une double condamnation en quelque sorte, une condamnation vraiment sociale, c'est-à-dire que toutes les classes sociales ne devraient pas lire, et puis ensuite une condamnation genrée, c'est-à-dire que qui plus est, les jeunes filles. Et on verra à la fin du 19e siècle, sera plutôt la lecture des ouvriers qui sera mise en cause, l'autre classe dangereuse émergente. On impute à un mauvais public sa mauvaise éducation et le fait qu'il est incapable de discerner le vrai du faux, le réel de la fiction. Et donc se priver du plaisir premier de l'identification et du désir de ressembler.
Sous l'influence de ses lectures, un idéal se forme en elle. De l'amour qu'elle ne connaît pas, de la nature qu'elle n'a vue jusqu'alors qu'avec des yeux indifférents de campagnarde, de la piété filiale, de la douleur et de tous les sentiments en général, dont l'intensité lui apparaît comme une beauté morale. Incitée par un mobile d'admiration, elle incarne en elle les héroïnes de ses romans, contracte l'habitude d'ouvrir son âme aux êtres imaginaires, y essaie les sentiments de ses personnages fictifs. Elle achète un plan de Paris, s'abonne à des journaux de mode. Elle lit les romans de Balzac et de George Sand, y cherchant des assouvissements imaginaires pour ses convoitises personnelles. Jules de Gautier, Le Bovarisme, la psychologie dans l'œuvre de Flaubert, 1892.
Le bovarisme, c'est une appellation qui a été donnée par Jules de Gautier à la fin du 19e siècle. Et il définit ça comme la faculté des parties à l'homme, pas la femme, de se concevoir autre qu'il n'est. Donc une sorte de faculté de fantasmagorie de soi-même, de se concevoir autre que l'on est. Il le fait donc à partir d'Emma Bovary, parce que Emma Bovary va très vite représenter une sorte d'archétype, celui d'une jeune fille tôt mal éduquée. C'est vraiment l'idée d'une mauvaise éducation. Donc Emma Bovary, c'est au départ Emma Rouault, une jeune paysanne qui reçoit une éducation au-dessus de sa condition parce que son père paysan, le père Rouault, s'est enrichi et décide de donner le meilleur à sa fille pour qui il a un amour paternel sans faille. Donc il l'envoie en pensionnat à Rouen. Et à Rouen, elle va découvrir toute une littérature sous le manteau qu'apporte la lingère dans son panier de linge. Elle cache des romans, des livres de jeunes filles, des livres sentimentaux. Et ça va provoquer chez Emma des émois comparables à ceux que lui procurent aussi les cantiques, les images pieuses, tout éthéré. Donc
elle se met à façonner une sorte d'imaginaire très romantique, idyllique, fait de beaux messieurs, de belles dames, de figures très pastelles et estompées.
Elle frémissait en soulevant de son haleine le papier de soie des gravures, qui se levait à demi-plié et retombait doucement contre la page. C'était, derrière la balustrade d'un balcon, un jeune homme en court manteau qui serrait dans ses bras une jeune fille en robe blanche, portant une aumônière à sa ceinture, ou bien les portraits anonymes des ladies anglaises à boucles blondes qui, sous leur chapeau de paille rond, vous regardent avec leurs grands yeux clairs.
Et cette construction vient rencontrer le réel au moment donc de son mariage avec un monsieur plutôt sympathique, hein, Charles Bovary, qui a soigné la jambe cassée de son père et qui va s'éprendre d'elle alors qu'il est déjà marié. Mais fort opportunément, sa première Madame Bovary meurt. Et donc il va pouvoir faire sa demande en mariage au père Rouault et épouser Emma Bovary, qui dans les premiers temps va essayer à toute force de vivre ce que les romans lui ont promis d'extase, de passion, etc., tout ce qu'elle espérait pouvoir vivre. Et elle va vraiment s'y attacher, elle fait vraiment des gros efforts, elle prend les poses des héroïnes, des châtelaines au long corsage, le long des remparts de leur château, elle en s'adossant à sa modeste mansarde, en regardant son mari partir sur un mauvais cheval sur les routes de campagne, mais elle essaie vraiment de vivre comme les héroïnes, elle fait énormément d'efforts. Sauf que Charles Bovary n'est pas du tout à la hauteur, mais vraiment pas. Donc le réel va ne cesser d'apporter des désillusions. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle vient, après une longue lignée, toutes les autres lectrices dont je vais parler, elles préexistent, elles sont connues aussi de Flaubert. Et quand Flaubert n'a sans doute pas dit « Madame Bovary, c'est moi », mais l'a peut-être quand même pensé un peu, Flaubert aussi a eu toute une jeunesse complètement irriguée par ses propres lectures. Donc lui, il va transposer dans ce personnage féminin cette faculté que nous avons tous à nous projeter dans l'univers romanesque, dans la fantasmagorie, et à espérer que le réel soit à la hauteur. C'est un beau personnage, hein, parce que finalement, elle attend beaucoup plus de la vie que ce que la vie arrive à lui donner.
Par l'effet seul de ses habitudes amoureuses, Madame Bovary changea d'allure. Ses regards devinrent plus hardis, ses discours plus libres. Elle eut même l'inconvenance de se promener avec Monsieur Rodolphe, une cigarette à la bouche comme pour narguer le monde. Enfin, ceux qui doutaient encore ne doutèrent plus quand on la vit, un jour, descendre de l'hirondelle, la taille serrée dans un gilet à la façon d'un homme.
Le danger qui est pointé dans les romans et qui est pointé dans les discours contre la lecture, c'est vraiment un danger non pas d'émancipation politique, mais un danger d'émancipation sexuelle. C'est-à-dire qu'elle désire, d'où la lecture de romans sentimentaux, qu'elle désire avoir échapper à leur état de femme mariée sans consentement, à un mari qui ne les intéresse pas, mais qu'elles veuillent vivre de véritables passions. Donc bref, c'est l'adultère, le grand danger. Donc c'est un danger moral qui est pointé, mais on peut sentir que c'est pas le seul. C'est-à-dire que dans le fond, ce qui est sous-jacent, c'est une forme d'émancipation. Il y a une grande peur au XIXe siècle du mélange des sexes. Que à force d'égalité entre les hommes et les femmes, et surtout si les femmes se mettent à lire comme des hommes, à écrire comme des hommes, la peur qu'elles deviennent des hommes. Que ce soit comme un homme, Emma Bovary se met à porter des pantalons, à aller à des fêtes extravagantes, à danser toute la nuit, à boire, à porter le lorgnon, bref. Tout ceci menace l'ordre établi, binaire, des hommes, des femmes, chacun de son côté, avec des attributs clairement reconnaissables. Donc la lectrice, elle est une hystérique en puissance, elle menace l'ordre social et l'ordre genré.
« Sais-tu ce qu'il faudrait à ta femme ?» reprenait la mère Bovary. « Ce seraient des occupations forcées, des ouvrages manuels. Si elle était comme tant d'autres contrainte à gagner son pain, elle n'aurait pas ces vapeurs-là, qui lui viennent d'un tas d'idées qu'elle se fourre dans la tête et du désœuvrement où elle vit. Pourtant, elle s'occupe, disait Charles. « Ah, elle s'occupe. À quoi donc ?» À lire des romans, de mauvais livres, des ouvrages qui sont contre la religion et dans lesquels on se moque des prêtres par des discours tirés de Voltaire. Mais tout cela va loin, mon pauvre enfant. Et quelqu'un qui n'a pas de religion finit toujours par tourner mal.
à la parution de ce livre. Ce livre est jugé scandaleux. Et l'Empire va vouloir condamner ce livre. Donc l'avocat impérial, Maître Pinard, va s'acharner sur ce livre. Alors bon, il a déjà un nom ridicule, mais sa plaidoirie l'est tout autant. Pour lui, ce livre est vraiment illisible, amoral. C'est une promotion ouverte de l'adultère. C'est vraiment pas un livre à mettre entre toutes les mains, et surtout pas dans les mains des jeunes filles. Et l'avocat de Flaubert, Maître Sénard, va lui, au contraire, dire « mais c'est tout l'inverse, c'est une peinture atroce de l'adultère ». Donc c'est discours contre discours, mais qui finalement, tous deux veulent juger de la moralité du livre de Flaubert, et tous deux ont la même idée de la moralité.
Le ministère public a prétendu que le sous-titre du roman « Mœurs de province » devrait faire place à celui-ci « Histoire des adultères d'une femme de province ». Sénard proteste.
S'il vous faut absolument un second titre, il est « Histoire de l'éducation trop souvent donnée en province »,« Histoire des périls auxquels elle peut conduire »,« Histoire de la dégradation, de la friponnerie, du suicide » considérée comme conséquence d'une première faute et d'une faute amenée elle-même par de premiers torts auxquels souvent une jeune femme est entraînée. Histoire de l'éducation, histoire d'une vie déplorable dont trop souvent l'éducation est la préface.
C'est-à-dire que là, on est vraiment dans le Second Empire ultra-moral qui va vraiment vouloir faire de l'adultère l'un des grands vices à combattre. Donc Maître Sénard emporte l'adhésion, le livre n'est finalement pas condamné, va pouvoir continuer à être publié, au point que au milieu du XXe siècle, le roman de Madame Bovary sera donné aux jeunes époux par les mairies au moment des mariages, comme un guide pour ne pas tomber dans les mêmes travers. Je crois que c'est dans les années 50 qu'on décide d'offrir ce roman. Donc il y a effectivement un procès de la mauvaise lectrice, et puis c'est un procès finalement gagné, mais pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire que oui, c'est vraiment une mauvaise lectrice, et donc à ce titre, ce roman doit être lu pour mettre en garde les jeunes lectrices des méfaits d'une lecture déraisonnable. Il faut lire, mais ne pas se projeter.
Le curé s'émerveillait de ces dispositions, bien que la religion d'Emma, trouvait-il, pût, à force de ferveur, finir par friser l'hérésie et même l'extravagance. Mais n'étant pas très versé dans ces matières sitôt qu'elles dépassaient une certaine mesure, il écrivit à M. Boulard, libraire de Monseigneur, de lui envoyer quelque chose de fameux pour une personne du sexe qui était pleine d'esprit. Le libraire vous emballa pêle-mêle tout ce qui avait cours pour l'or dans le négoce des livres pieux. C'étaient de petits manuels par demandes et par réponses, des pamphlets d'un ton rogue dans la manière de M. de Maistre, et des espèces de romans à cartonnage rose et à style douceâtre, fabriqués par des séminaristes troubadours ou des babeleux repentis.
Aujourd'hui, peut-être que l'appropriation que se font les lectrices de certains livres du début du XIXe siècle nous paraîtrait incongrue. Beaucoup, par exemple, décrivent des émotions assez intenses à la lecture de descriptions de paysages, à la lecture de scènes un peu mystérieuses dans des châteaux. Tout ça, ça participe bien évidemment d'une sensibilité romantique. Donc voilà, là on a vraiment des lieux littéraires dans lesquels les femmes peuvent éprouver des émotions intenses. Il y en a un autre plus surprenant, ce sont dans certains livres de piété, et notamment dans les vides mystiques. En priorité celle de Thérèse d'Avila, la sainte espagnole du XVIe siècle, bien connue pour le récit qu'elle a fait dans sa vie de son extase mystique. Et un certain nombre de lectrices du XIXe siècle disent avoir lu dans leur adolescence la vie de Thérèse d'Avila, parce que c'est une vie d'une sainte, donc c'est autorisé, mais avoir ressenti des émotions qu'elles avaient du mal à contrôler, proches justement de cette extase. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça a fait presque plusieurs siècles déjà que l'hystérie, comme maladie féminine, est associée à une mauvaise lecture. Mais au XIXe siècle, moment où naît la psychiatrie en France, avec de grands noms comme Esquirol, Pinel ou Georget, on va trouver en fait dans les traités médicaux des listes totalement incroyables, presque improbables, de maladies dites féminines qui seraient provoquées par la lecture, les monomanies érotiques comme la nymphomanie, Les monomanies religieuses, par exemple la démonomanie, donc le fait finalement de se laisser complètement subjuguer par sa croyance religieuse, ce qu'on appellerait une maladie mentale, touche, on va dire, des femmes qui deviennent incapables de distinguer en fait la réalité de finalement l'environnement hein, religieux auquel elles ont eu accès, que ce soit dans leur lecture, que ce soit dans leur instruction religieuse, etc. Et donc, pour vous montrer hein, jusqu'où vont hein, ces prescriptions, les médecins vont aussi mettre en garde sur la lecture des dictionnaires, et notamment des dictionnaires médicaux, puisqu'elles pourraient trouver des détails sur leur anatomie, et donc, à partir de là, se livrer par exemple à la masturbation, à savoir qu'une femme qui se masturbe trop est également pensée comme une malade. Il y a des femmes, notamment une femme sur laquelle j'ai travaillé, un Lord Ivrande, qui finit internée à la Salpêtrière, et sur les registres de la Salpêtrière, comme cause d'entrée, on trouve qu'elle se livre trop à la masturbation.
Avant qu'elle se mariât, elle avait cru avoir de l'amour. Mais le bonheur qui aurait dû résulter de cet amour n'étant pas venu, il fallait qu'elle se fût trompée, songeait-elle. Et Emma cherchait à savoir ce que l'on entendait au juste dans la vie par les mots de félicité, de passion et d'ivresse qui lui avaient paru si beaux dans les livres.
Après, il y a des cas absolument incroyables. Hein, donc là, une jeune femme qui succombe à un homme qu'elle ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, mais en fait, elle vient de lire, ou elle a trop lu l'Imitation de Jésus-Christ, et du coup, elle croit que c'est Jésus, les catégoriser comme nymphomane. Il y a une femme qui est accusée d'avoir tué sa mère et trois autres personnes. Elle avait trop lu de livres de piété. Elle voyait le démon partout. On trouve comme ça des cas de lectrices qui ont clairement été perverties par leur lecture. Et parmi les soins qui vont lui être prodigués, hein, outre les classiques sangsues et autres infusions de plantes médicinales, le médecin va demander d'interdire tout type de lecture.
Donc, il fut résolu que l'on empêcherait Emma de lire des romans. La bonne dame s'en chargea. Elle devait, quand elle passerait par Rouen, aller en personne chez le loueur de livres et lui représenter qu'Emma cessait ses abonnements. N'aurait-on pas le droit d'avertir la police si le libraire persistait quand même dans son métier d'empoisonneur ?
L'électrice.
C'était Celles qui lisent, épisode 3, l'électrice sur le banc des accusés. Avec Marie Baudry, Judith Lioncan et Isabelle Matamoros. Avec les voix de Raphaël Laloum, Henri Alexandre et Marjorie Delarquier. Prise de son, Nicolas Leroulet, Stéphane Touvenin, Pierre Henry. Mixage, Éric Boisset. Documentation, Anne Signoret, Antoine Buillos. Archivina, Mylène Touchet. Chargée de programme, Marie-Vonne Apolivier et Anaïm Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. Celles qui lisent, une série documentaire d'Hélène Boutani et Anne Pérez.